Richard Sainte-Marie, toi aussi, tu es à ton deuxième roman?
Oui, L'Inaveu.
L'Inaveu.
C'est un mot qui n'existe pas dans la langue française, mais dorénavant,
il est très beau.
Il va exister. Ouais.
Oui, c'est un très beau mot et ça va très bien avec ton livre. De ton livre, on va en parler tantôt. Toi, tu écris du polar.
Oui, des nouvelles et des romans.
Il faut dire que toi et moi, on a une relation privilégiée. Je suis sur le jury du prix Alibi et à trois reprises, on a vu tes textes arriver. Tu as eu une mention spéciale et finalement, tu as été gagnant. Et là, L'Inaveu, la radio, ça t'accompagne depuis fort longtemps aussi. Oui. Tu es professeur d'université à la retraite.
Oui, je l'étais jusqu'en 2000. En 2002, mon dernier étudiant de maîtrise, François Lemay, qui est maintenant à Radio-Canada l'après-midi, François m'avait demandé si je voulais faire de la radio avec lui. Il dit, moi, tout seul, ça me gêne. Alors, j'ai dit, OK, ah oui, c'était un rêve. Alors, j'ai commencé en 2002, puis j'en ai fait jusqu'en 2010. J'ai fini avec Jean-Pierre Gay.
L'aérospatiale.
L'aérospatiale, où on a interviewé plus que 600 artistes en arts visuels. Avant Jean-Pierre, je faisais des émissions toujours sur des créateurs, des écrivains, des musiciens, des acteurs.
Et c'est quand même particulier, faire une émission radio sur les arts visuels. Juste ça mérite d'être souligné. Et c'est Sécarel qui nous offre cette opportunité-là.
On était à l'époque la seule émission d'art visuel hebdomadaire au Canada.
Au Canada?
Oui, madame.
Oh là!
Sécarel.
Oui, Sécarel, hein?
Oui, bénévole en plus.
Ben oui, c'est ça. De retour au Radioton de CKRL à l'émission Jazz et littérature, Richard Sainte-Marie, L'Inaveu.
Oui.
C'est du policier, du vrai.
Oui.
C'est une enquête.
Enfin.
Oui, oui effectivement.
Comme parce je disais à mon éditeur, Jean, petit gros, tu vas finir par faire un auteur de roman policier avec moi.
Oui, parce que ton premier roman, il y avait une promesse de roman roman policier, et finalement, non. Non, ça n'était pas un. Justement, il y avait un côté roman d'amour très déçu, hein, ce qui a mal fini. Bon, L'Inaveu, raconte-moi un petit peu, c'est quoi ton...
Comment dire sans trop dire parce que...
Oui, c'est ça. Bon. J'aimerais ça que toi, tu t'aies des bonnes choses. Que ça soit pas moi.
Moi, c'est drôle parce que quand j'en parle avec quelqu'un qui l'a lu, c'est plus facile.
Mais là, les auditeurs l'ont pas lu. Moi, je l'ai lu, mais Nadia n'a pas lu. Parle à Nadia.
Il était une fois. Parce que dans le fond, quand on écrit un livre, c'est « Il était une fois ». C'est toujours ça. Comme je dis à mes petits-enfants, une fois, c'était un gars. L'histoire est finie. Mais c'est l'histoire d'un gars qui trouve, en faisant le ménage de la maison de son père. Son père est mort, alors il fait le ménage de la maison pour la vendre. Il trouve un album de photos. Mais ce n'est pas des photos qu'il y a dedans, c'est des coupures de journaux. Il se demande parce que c'est des crimes. Alors, ce n'est pas du tout le style de son père qui est un comptable, bricoleur, sérieux. Puis après, il trouve un carnet dans lequel il y a des inscriptions étranges, puis il y a une relation entre le carnet et l'album de photos, de coupures.
Oui.
Des choses qui sont passées dans les années 70, alors qu'on est en 2007. Et c'est tellement troublant, parce qu'il y a des crimes, puis son père est lié, forcément, puis il y a un individu qui s'appelle C.S., qui est en rapport avec ça. Alors, il se demande qu'est-ce qui se passe.
Il y a aussi une autre chose qui, moi, m'avait tout de suite intriguée. Il n'y a pas un grand héritage. Tandis que d'un comptable, on s'attend
à ce qu'il y ait un grand héritage. L'homme, il était dans une grosse firme, il était co-actionnaire. Donc, c'est un peu étrange. Il va voir la police avec ça. Et la police, l'inspecteur Pagliaro, s'appelle Francis Pagliaro. Ben, il lui dit, écoute, avec ce que tu m'apportes, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de suspect, il n'y a pas de victime. Il faut que tu me trouves autre chose. Alors, il va finir par trouver autre chose. Et là, l'enquête va débouler. Et ça va régler des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Mais qui est ce fameux CS? C'est toute la quête du sergent détective pendant le livre pour trouver ce personnage-là clé. Alors, c'est l'histoire du livre. Et c'est drôle parce que...
Mais il y a aussi l'histoire, c'est qui ce père de Régis?
Oui.
Parce que moi, j'ai trouvé ça encore plus intéressant que la quête de CS.
Ah,
parce que oui, il y a un suspense.
Le père de Régis Duchesne.
Oui, on va faire connaissance avec ce comptable-là. Et ça, je trouvais que c'était une quête. C'est là l'inaveu aussi.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y avait ça dans mon autre livre et il y avait ça aussi dans tous les travaux que j'ai faits en dessin, en photo pendant toute ma vie. Il y a comme un thème qui revient tout le temps. Puis un seul. Ça revient toujours à « il n'y a pas pire prison que celle qu'on se fait soi-même ». Puis c'est un peu ça l'histoire en dessous. Moi, j'aime les histoires qui en cachent une autre, ou même des personnages qui en cachent un autre. Dans les romans, on peut faire ça.
Oui.
On peut prendre un personnage puis le faire figurer pour qu'il devienne l'incarnation d'un concept ou, par exemple, d'une idée ou d'un sentiment. Mais il peut cacher une histoire, un personnage peut cacher une histoire, mais une histoire aussi est dans l'histoire. Et ça, c'est important pour moi, c'est comme une fable. Puis l'idée que la pire prison, c'est celle qu'on se fait soi-même, je me suis aperçu tard dans ma vie que c'est récurrent dans tout ce que j'ai fait. Est-ce que moi, je suis comme ça? Je ne sais pas. Je ne ferai pas la psychanalyse de moi-même, puis mes livres ne servent pas à faire ça non plus, mais j'ai été prof d'art toute ma vie. Je me suis rendu compte aussi à quel point certains grands artistes visuels ont aussi une ou deux idées dans la vie, pas plus. Brancusi, c'est une idée, deux idées. Oui. L'oiseau, l'envol, le poisson, tout est autour de ça. Henry Moore, le sculpteur britannique, la forme dans la forme. Quand sa femme est devenue enceinte, il y a une forme qui était dans la forme, qui bougeait. Alors, il s'est mis à faire des sculptures trouées dans lesquelles on voyait d'autres objets. Alors, toute son œuvre est fondée là-dessus, sur une idée, et mieux d'être bonne.
Oui. On a toujours nos thématiques récurrentes. Hein?
Oui.
On a toujours... On s'en rend pas compte. Je pense que c'est un peu inconscient. Là. Moi, je m'en rends compte. Je me rends compte que d'un manuscrit à l'autre, je suis toujours dans l'idéalisation amoureuse. J'essaie toujours de déconstruire.
Oui. Il ne faut pas combattre ça. Stephen King l'a dit dans une préface d'un de ses livres, et c'est formidable. Il dit: qu'est-ce que vous voulez? Moi, si je suis sur le bord d'un étang, il fait beau, il y a des libellules, c'est calme. Mais moi, je pense que dans l'étang, si on va au fond, il y a un trou. Puis là, il y a des abominables personnages ou des êtres dangereux. Puis si on va jusqu'au fond, ce trou-là, il rejoint la mer là-bas. Puis là, c'est la catastrophe. Il dit: qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ça qui me vient à l'esprit. Alors, il dit: je suis pas fou. J'ai arrêté de lutter contre ça. Puis j'écris ça, puis ça me rapporte beaucoup d'argent. Là, on n'est pas rendu là, nous, là.
Non, mais je suis d'accord avec ça aussi, il ne faut pas lutter.
Le début de la proposition est vrai. Il ne faut pas combattre ça. Si c'est ça qui vient, ben faisons ça. Autrement, on fait semblant d'être un auteur.
Ben voilà. Ben oui, moi, je pense que c'est... Pour moi, c'est l'eau au moulin, là. C'est ce qui alimente mon inspiration. Puis, justement, pourquoi lutter contre ça? Puisque c'est notre sujet, notre thématique de prédilection. Puis je pense que, justement, si d'un roman à l'autre, on travaille là-dessus, ça nous permet de le voir sous toutes ses facettes, puis, justement, d'aller au fond de cette thématique-là, justement.
On va partir d'une petite pause musicale. On était en train de parler avec Richard de l'inaveu et j'aimerais quand même encore qu'on approfondisse un peu le personnage de Pagliaro. Parce que tu as créé là...
Un beau personnage.
Oui. J'aimais beaucoup ton monsieur Emmerly, mais Pagliaro aussi, je l'aime beaucoup. Oui, ils ont des points en commun.
Oui. Ben, ils ont en commun d'aimer la musique classique, c'est déjà pas mal. Oui. Pagliaro, sergent détective de la Sûreté du Québec, aime le Schubert. Il aime surtout les pièces de Schubert avec peu d'instruments, des quatuors, des trios. Et Emmerly, qui est un personnage de mes nouvelles, qui est un tueur à gages, lui aime plus le chant. Alors, il aime beaucoup une cantatrice dont il s'occupe. Donc là, on parle plus d'air d'opéra et de cantate. C'est parce que c'est la musique que je connais aussi. C'est la musique que j'ai jouée quand j'étais plus jeune. J'ai fait le conservatoire. J'ai fait du jazz aussi, les gars, c'est vrai? Oui.
Quel instrument?
Un saxophone. J'ai joué à 16 ans. J'ai commencé à jouer avec un ami qui avait 15 ans, Daniel Lessard, qui est maintenant plus connu. Et on a joué du jazz à cette époque-là. On avait la même formation que Dave Brubeck. Donc, moi, je jouais du Dave Brubeck. Puis c'était l'époque aussi. Quand j'avais 16 ans, on était en 61.
On était...
Take five.
Ouais, take five. Mais quand même, mes premiers amours, c'est pour la musique classique. Alors, je transmets dans mes personnages un peu mes goûts, c'est mes livres, je peux faire ce que je veux, on fait tout ça, hein. on met ce qu'on veut. Hein.
Nous sommes Dieu.
Oui, c'est ça.
C'est le pouvoir d'écrire ou de réécrire des histoires, c'est merveilleux.
Mais des fois, on tombe sur un personnage qu'on développe tranquillement, qui se développe, qu'on développe, puis on se met à l'aimer. C'est ça l'aventure des lecteurs, parce que quand je faisais de la radio, je disais il n'y a pas de radio quand il n'y a pas d'auditeur, mais c'est vrai pour les livres. Il n'y a pas de livres si personne ne les lit.
Oui.
Alors ça prend des libraires, ça prend des éditeurs, ça prend tout le monde.
En fait, j'ai vu une BD dans le journal Voir cette semaine. Puis il y avait une petite BD justement où il y avait un petit bonhomme qui disait que c'était le lecteur qui était Dieu et qu'il avait le droit de vie ou de mort sur un livre.
Ben c'est vrai, on peut fermer le livre.
Oui, le petit bonhomme finit en psychanalyse aussi dans la BD en question.
On peut arrêter à l'avant-dernière page, puis l'auteur ne le saura jamais.
Ah, voilà. Hein?
Ça m'arrive des fois dans les policiers que je veux relire, ne veux pas savoir c'est qui le meurtrier à la
fin. De toute façon,
c'est
le maître d'hôtel. C'est toujours le butler qui a fait le coup.
Ben, vu de même, j'en ai vu assez pour dire non, pas tout le temps. Pagliaro étudie aussi en même temps.
Oui, en philosophie.
Pourquoi la philo?
Parce que la vie de policier, pour lui, il la trouve absolument contingente. C'est-à-dire que la vie de policier, c'est vrai, j'ai interviewé des policiers, j'ai connu des policiers. J'avais un beau-frère qui était procureur de la couronne. T'arrives au bureau, ça t'arrive, un viol, ben tiens donc. Ou le lendemain, oh, c'est un fraudeur. Mm-hmm. Bon, à chaque fois, il t'arrive des choses inopinément dans ta vie, mais c'est pas inopiné dans la vie des méchants.
Oui.
Mais t'es toujours en train de combattre des choses qui t'arrivent, qui n'auraient pas dû arriver. Puis des fois, ça arrive à des gens à qui ça ne serait pas arrivé dans d'autres circonstances ou qui n'auraient pas agi, qui ont agi comme ça cette fois-là, mais. Donc, tout ça est contingent, tout ça peut varier. Il y a tellement de variables qui peuvent faire flipper d'un bord ou flipper de l'autre bord.
Mm-hmm.
Alors, cette vie-là, c'est toujours à recommencer. C'est un peu le mythe de Sisyphe.
Oui.
Tu roules ta pierre jusqu'en haut, et quand tu arrives en haut, elle redescend en bas. Il faut que tu redescendes et que tu la remontes éternellement. Alors, lui, cette vie-là, avec des personnages, même dans la police, des personnages qui sont pas toujours ragoûtants,
mm-hmm.
Comme disait quelqu'un, c'est pas tous des prix Nobel, les criminels.
Et ils sont pas tous fins non plus.
Non, c'est ça. Alors, il y a envie de quelque chose de plus absolu, quelque chose qui serait pas contingent, qui serait plus permanent. Une espèce d'îlot de fraîcheur dans l'océan de la bêtise humaine. Alors, c'est pour ça qu'il s'intéresse à la philosophie. Mais il va voir que dans la philosophie, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a toujours la lutte du bien et du mal, parce qu'il commence par la morale. Là, c'est une partie inventée par Socrate.
Oui.
La morale, c'est toujours le bien et le mal. Et le bien et le mal, c'est le travail de la police.
Oui.
Et c'est aussi le travail de l'écrivain policier. Parce que dans un livre policier, il y a la vie et la mort à chaque page. Ça, c'est
oui,
formidable. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie? Ça, c'est la bonne question. Moi, il n'y en a pas, sur tout ce que j'ai lu dans ma vie, j'ai 66 ans, je ne sais pas combien de livres j'ai lu, mais je peux te dire que les livres qui ont changé ma vie, il n'y en a pas 5. Alors, c'est pas décourageant. C'est qu'il y a des livres aussi qui ne vous intéressent pas, mais il y a des livres qui ne vous concernent pas non plus.
Mm-hmm.
Il y a des livres qui sont merveilleux, qui sont magnifiques, mais qui... Moi, Zola, ça ne me concerne pas. Je ne dis pas que c'est mauvais, ça ne me touche pas et ça ne me concerne pas. Alors, j'ai essayé et j'ai changé de voie. Mais il y a certains livres, à certaines époques, qui... Siddhartha, par exemple, de Hermann Hesse, ça a changé ma vie quand j'avais 22 ans. Je l'ai relu à 35 ans. Bon,
oui, hein?
J'espère que certains de mes livres vont faire ça, mais... Je l'espère, mais je fais pas ça pour ça.
Tu ne fais pas ça pour divertir?
Ni pour changer quelque chose, mais c'est parce que c'est un besoin de raconter une histoire. Comme je vous disais tout à l'heure, une fois c'est un gars. C'est toujours ça.
Ah.
Sauf que je trouve dans la vie réelle des choses tellement incroyables. J'ai écrit une nouvelle il y a 2 ans, et dans cette nouvelle-là, il y a des personnages complètement capotés. Ben, ils sont tous vrais, parce que c'est des gens que j'ai connus. Alors, mon éditeur me disait, hey, t'as de l'imagination. Non. Si t'enlèves tout ce qui est vrai, il ne reste plus rien. Alors, mais moi, mon travail, c'est de spotter ça, comment dire, regarder ça, puis de le travailler. Ça, c'est le travail, vous connaissez ça, c'est le travail d'écriture qui fait qu'on prend des choses vraies, puis on les ajuste ensemble, mm-hmm. on les fabrique comme on fait une sculpture, un morceau de ci, un morceau de ça. Puis là, on regarde si ça se tient. Puis si ça se tient, bien, ça fait une histoire. Le problème du polar, c'est le polar, c'est le genre. C'est que le polar... Mais
c'est un problème.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des règles, comme tu disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait des, oui. Il y a des balises, je veux
oui,
dire.
Ça,
puis renouveler le genre, c'est pas facile.
Je n'écris pas pour raconter une histoire. Moi, quand j'écris, j'écris pour faire vivre une histoire. Je veux qu'on se mette dans la peau d'un personnage pendant X temps.
Puis on s'adresse à la personne qui lit personnellement.
Voilà.
Et un par un. Parce qu'on peut même lire le même livre. On ne lit pas un livre ensemble comme on regarde une émission de télévision ensemble. On lit. Donc, on s'adresse à une personne en particulier. Et il arrive parfois qu'un livre s'adresse à toi et que tu ne le savais pas. Et moi, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie. Ces livres-là changent notre vie parce que c'est comme des outils. Moi, j'ai toujours considéré que les œuvres d'art, ils n'ont pas de sens vraiment. Ils n'ont pas besoin. C'est apporter votre sens.
Voilà.
La preuve, c'est que les gens lisent nos affaires puis ils nous racontent. Ah, c'est pour ça que j'ai écrit. Ah, mais c'est ça que j'ai compris. Mais c'est parce que c'était dans le livre. C'est parce qu'on l'a mis peut-être inconsciemment. Il y a plusieurs niveaux. Alors, les gens lisent nos livres, pas pour les raisons pour lesquelles on les a écrits.
Non.
Alors, puis si des fois ils trouvent quelque chose qui donne un sens à leur vie, c'est formidable, comme un outil. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de marteau chez eux. Ils n'ont jamais utilisé un marteau. Moi, j'en ai deux, trois, mais pourquoi?
Et combien dans les livres?
Il n'y en a pas besoin de marteau. Oui. Un de mes livres, il se fait assassiner avec une lampe en bronze. Pas besoin de marteau
dans ce temps-là.
Pour tuer quelqu'un. Mais je veux dire, un livre, c'est comme un marteau. Un tableau, c'est comme un marteau. C'est un outil dont on peut se servir pour changer notre vie ou pour donner un sens à notre vie comme lecteur ou comme regardeur ou pas. Ça se peut que ça ne nous concerne pas.
On lit avec nos propres référents, justement.
Oui, c'est apporter votre sens. Moi, j'en suis absolument persuadée, même quand c'est écrit.
Écrit, de la musique, je pense que c'est vrai pour toute œuvre d'art, non?
Mais l'écriture, elle a déjà un code. Tandis que la musique que les gars font ici, le code, c'est leur code. Ils inventent le code en même temps qu'ils
inventent
la musique.
Oui, mais toi aussi, tu inventes le code. Ton écriture, regarde, j'ai trois livres ici devant moi, là.
Ouais.
Et c'est trois codes différents.
Oh, mais je veux dire, le code simple, en allemand, par exemple, je pense qu'on met le verbe à la fin.
Le participe passé, oui. Le participe est à la fin.
Nous, si je dis comme Hemingway, j'ai vu un beau camion rouge, l'ordre j'ai vu un beau camion rouge. On ne peut pas dire rouge, j'ai camion vu.
Sinon, ça devient de la poésie.
Oui, ça
devient de la poésie.
Mais je veux dire,
c'est une chance qu'on n'a pas de poète ici.
Non, mais je blaguais, bien sûr.
Oui, c'est un peu vrai. Mais il y a un ordre dans lequel, tandis que si j'arrive devant un tableau, il n'y a pas d'ordre. L'ordre, oui, ce sera le mien.
Oui, mais...
C'est sûr qu'il y a un sens de lecture. Ce qu'on comprend, oui, c'est qu'un roman a un début, un milieu, oui, une fin. Même si on joue avec la chronologie, il y a une logique dans la construction d'un roman qui n'est pas visible quand on regarde un tableau. Et le tableau, on va devoir lui trouver la manière de le voir, puis chacun va le voir différemment. Puis la structure du roman, on finit par se projeter, puis... Il y a quelqu'un un des commentateurs de Bizango qui a dit finalement le livre est comme le personnage. Est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est un roman fantastique? Est-ce que c'est un polar fantastique? Est-ce que c'est une étude de mœurs? Finalement, on va y projeter ce qu'on veut, puis le livre devient exactement comme le personnage. Puis je pense que c'est vrai de tous les livres.
Mais un roman peut être un tableau aussi.
Oui.
Oui.
Mais c'est narratif néanmoins. Je sais que tu as dit je n'aime pas raconter une histoire, j'aime la faire vivre, mais.
Tu la racontes
pareil. Tu la racontes quand même.
Ben oui, j'ai pas le choix de passer par là.
C'est ça, il y a quand même une histoire. Ben, sauf si on parle, par exemple, anecdotes comme dans Taxi-Man. Là, c'est autre chose, effectivement. Mais effectivement, un roman, un récit, on a un début. Même si tu mets le début à la fin, ça reste une histoire racontée. De retour à jazz et littérature. Et on est déjà presque à la fin de l'émission. Ça a passé vite, hein?
Très vite.
Et j'ai l'impression qu'il en reste des choses à dire. On était rendu pas mal dans réalité, fiction. C'est quoi l'œuvre d'art? Comment on le perçoit? Je sais pas, j'aimerais peut-être faire un petit tour. Vous, quand vous écrivez, vous vous adressez à un lecteur. Mais De l'autre côté, bon, Richard, tu l'as dit, le lecteur vous perçoit autrement. Est-ce que pour vous, ce contact-là, ça vous apporte quelque chose pour le prochain livre? On espère toujours qu'il y a des prochains livres quand on a aimé. Fait que, et ben, c'est quoi des projets qui s'en viennent?
Si j'avais 30 livres d'écrits, je pourrais répondre plus facilement. J'en ai pas, j'en ai juste deux. Avant, j'ai fait des livres universitaires, donc c'est autre chose. Mais oui, ce que les gens disent de tes personnages, c'est extrêmement lumineux. Ça éclaire. Parce qu'on a beau les créer, nous, on les voit pas comme les autres
les
voient.
C'est des bisangos.
Oui, c'est exactement des bisangos. Nous sommes tous
on les voit comme on veut bien les
ça
voir.
Ça va aller mal. Mais donc, on les crée, on les donne, ils sont vus, ils sont compris. Ils sont des fois. J'ai été surpris, mon ami Jean-Pierre Gay, quand il a lu mon livre, il est revenu et il m'a dit « J'aime beaucoup ton détective. Hey, pourquoi il l'aime? Il n'existe pas. » Mais oui, il existe.
Mais oui, il existe. Moi aussi,
dorénavant, il existe.
Oui, moi aussi, je l'aime. Toi, ton prochain projet, toi, tu es en réécriture de ton premier roman?
Oui, parce que chez Alire, on va republier mon premier roman qui était paru chez Stanquet.
Le ménage.
Un ménage rouge, qui est. D'ailleurs, je donne plus de place à Pagliaro dans le livre, dans la nouvelle version. Et ça va me permettre de réparer des choses. Et c'est ça, d'ailleurs, comme écrivain, c'est vraiment intéressant de réparer des textes. Donc, la création est là, il s'agit de la rendre meilleure.
Bon, ça fait que lisez de Richard Sainte-Marie, l'Inaveux, chez À lire, ça vient de sortir. Merci Nadia, merci Stanley, merci Richard. Je redis vos titres, Richard Sainte-Marie, l'Inaveux chez À lire, Bisango de Stanley Péan chez Les Allusifs et L'amour n'est rien de Nadia Gosselin aux 400 coups. Tout ça, laissez-vous pas leurrer, polar, fantastique, roman d'amour, ça veut rien dire, c'est des bons livres, c'est ça ce qui compte.